Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Lola Berthet, réalisée par Eliane Girard et David Leprince et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Patrick Henry. La gourmandise de ce matin date de 1721, c'est un passage savoureux des lettres persanes de Montesquieu, je vous le lis. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mine d'or comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisables que les mines. Par son imagination, ses dessins et ses jeux avec le langage, notre apothicaire de l'âme a façonné pendant des décennies une multitude de remèdes à la mélancolie. Illustre fantaisiste et poète présent dans la plupart des bibliothèques de France, ce fils d'enseignant commence sa carrière d'être humain en survivant à la guerre dans un petit village du Midi. À la guerre suivante, celle d'Algérie, il est réformé pour, je cite, « idiotie mentale ». L'idéaliste frappe à 20 ans à la porte de la rédaction de Paris Match pour proposer des bandes dessinées d'actualité. On lui dit de revenir quand il saura dessiner. Il dessine, écrit et au passage essaye des voitures de course et fréquente le monde de la parfumerie. Il devient journaliste tout support, exécute des reportages, des bandes dessinées et même des illustrations pour l'industrie pharmaceutique et automobile. Entre-temps, sa plume orne de plus en plus de publications. Il illustre les fabulettes d'Anne Sylvestre, imagine les pastagomes pour la télévision avec Alain Serre et invente le légendaire prince de Motordu, aussi apprécié des enfants que des orthophonistes. Il invente depuis quantité de réjouissances, dont les poules de neige, et l'on apprend dans sa biographie sur le site des éditions Gallimard qu'il a pour occupation de discuter avec les alouettes et les crottes de lapin. Je me suis donc déguisée en un mélange des deux pour le faire parler. Bonjour Pef.
Bonjour.
Alors je vais vous poser la question rituelle de cette émission sur votre rapport à la mélancolie, mais juste avant, vous nous avez écrit, vous qui aimez parler en jeu de mots, Pef, note de préparation à l'émission. Remède à la mélancolique.
Bon, je vois que le niveau de l'émission est très très haut.
Mais c'est vous qui l'avez donné.
Oui, j'ai imposé ce degré-là. Bon, et ce n'est qu'un
début.
Qu'une pirouette, quoi.
Êtes-vous un être mélancolique ?
Ah, je crois, oui. Je crois. Mais on peut être dans la mélancolie postale.
C'est-à-dire qu'on vous envoie
par
voie postale ?
Non, c'est pas ça. C'est qu'en moi, il y a des colis postaux. Donc, je mets en colis postaux ma tristesse, ma mélancolie. Et j'envoie ça dans mes livres, dans mes poèmes. Voilà, je fais office de diffuseur de colis, les mélancolies postaux.
Avec la rapidité d'un éclair au chocolat, je viens de comprendre le jeu de mots. Mêle en colis postaux, bien sûr. Vous dites dans une interview que vous êtes comme un violon. Tantôt, on joue sur les cordes aiguës, tantôt sur les graves. L'instrument est le même.
Oui, j'ai fait 8 ans de violon. Hein, donc c'est vrai que c'est un instrument qui m'allait bien. Après, j'ai eu un faible pour le violoncelle et ensuite j'ai un faible pour la contrebasse. C'est-à-dire que plus je m'affaisse et plus l'instrument me paraît prendre des proportions inimaginables. J'espère, vers 130 ans, que j'arriverai à l'octobasse de Berlioz, qu'il avait faite pour la messe, un requiem. Et on ne pouvait pas attraper les cordes avec les doigts. C'était un jeu de pédales. Voilà, c'est l'octobasse. Donc, est-ce que je deviens grave ? Non. Est-ce que j'ai du coffre ? Oui. Et je crois que plus j'avance et plus je m'interroge sur la gravité existentielle. Mais ça, c'est parce que je suis pas une machine à faire des jeux de mots. Je suis un homme. Je traverse la vie et il m'arrive d'être effectivement plus mélancolique que nostalgique.
D'ailleurs, Pef, quand on pense à vous, on pense tout de suite au prince du mot tordu, mais Vous avez fait énormément d'ouvrages beaucoup plus graves aussi pour expliquer aux enfants des choses historiques. Je pense à ceux sur les mines antipersonnelles, une si jolie poupée,
oui, une si
je
jolie
crois,
poupée, oui.
Sur la guerre.
Oui, sur un violon dans la nuit, justement, sur une adolescente qui est dans un camp et qui a survécu moralement, je dis bien moralement, en se rappelant toutes les partitions qu'elle avait apprises au conservatoire de Nancy. C'est un livre extraordinaire qui m'a valu l'amitié d'un ancien déporté de 103 ans. C'était mon plus ancien lecteur. On lui a offert ce livre et il m'a dit « Il n'y a aucune photo prise dans les wagons de la déportation. Il n'y a eu aucun dessin de fait. Toi, tu as trouvé le moyen d'enlever le plafond du wagon et de faire voir ce qui se passait dedans. » Et quand on m'a offert ce livre, me dit-il, Jean Viacroze, il s'appelait, il est décédé là cette année, il m'a dit « Je suis retombé dans le wagon. » Et pour ça, tu es mon ami. Il m'a tutoyé tout de suite. Et chaque fois qu'il m'écrivait, il commençait ses lettres par « Ami, entends-tu ?» 3 points de suspension. Ça, c'est le vrai bonheur de l'écrivain illustrateur que j'essaye d'être, quoi.
Et c'est aussi très émouvant. Et d'ailleurs, ouais. Dans vos ouvrages, Pef, on n'est jamais très loin de l'émotion, puisque même quand c'est drôle, juste après, il y a quelque chose de très mélancolique. Tout à l'heure, on aura l'occasion de parler du livre que vous avez fait sur les levées de soleil, le soleil sur la langue,
ouais.
Qui alterne vraiment des passages drôlatiques et des passages hautement mélancoliques.
Mmh.
Bon, alors j'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs, si vous êtes d'accord.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez convoquer dans quelques instants, Pef? Marcel Carné, un vélo, des levées de soleil, Roland Dubillard, Colette Magny, Victor Hugo, une colline, Louis Armstrong, Rembrandt et le poète Clément Marot. Juste après un morceau de Bertrand Belin dont le titre décrit exactement l'état dans lequel je suis en le découvrant puisqu'il est censé s'appeler « Ma politesse est prise en otage » sur le cul.
Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs, il y avait un homme ce matin sur le cul. Il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs, il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes. Sur le cul, des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Puis se reposaient. Comme hier d'ailleurs, puis se reposer.
Écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et nous sommes en compagnie de Pef qui semblait connaître la chanson qu'on vient d'écouter par cœur et de Louis Jouvet.
Et où demeurent-ils exactement ces amis qui ont la rougeole?
Ah oui, où ils demeurent exactement. Vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Ben, c'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois.
Vous croyez, cher cousin? Bizarre.
Qu'est-ce qu'il a ?
Qui ?
Votre couteau.
Comment ?
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors je croyais que...
Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre ?
1937, drôle de drame, chef-d'œuvre très très drôle, réalisé par Marcel Carnet. C'est l'adaptation par Jacques Prévert du roman policier His First Offense de l'écrivain écossais Joseph Storer Clouston. Pef, vous avez choisi cette séquence qui est l'une des plus fameuses du film et vous avez des anecdotes au sujet de cette séquence.
Oui, c'est des anecdotes parce que je vais faire revenir Michel Simon, si vous permettez,
oui,
exactement,
bien sûr,
précisément là où nous sommes ici, dans un studio radiophonique. Voilà, ils se détestaient, Jouvet et Michel Simon, et parce que Jouvet était un cagot. Je le sais parce que mon père était directeur de théâtre à la Ligue de l'Enseignement, qui est une institution laïque d'éducation populaire, et Jouvet n'a jamais voulu travailler dans un endroit laïque. Il était cagot, vraiment. Et alors que Michel Simon était érotomane, collectionneur de pots de chambre, et ça ne le faisait pas. Et Marcel Carnet n'a pas hésité à les rendre pochetrons pour la séquence. Ça ne se voit pas du tout, mais c'était la seule condition, c'est qu'il y ait ce mur de l'alcool entre deux, quoi.
Et Michel Simon, vous imitez absolument parfaitement, Pef.
Pourquoi regardez-vous ce micro ?
Je ne le regarde pas, voyons, c'est
bizarre,
lui qui me regarde.
Comme c'est étrange.
Il a un personnage très émouvant dans ce film.
Il chante « Dormez, petit pigeon ».
Il est à la fois un professeur de botanique, auteur d'un livre que vous auriez pu écrire, Pef, « Le mimétisme du mimosa ».
Voilà, « Le mimétisme du mimosa », nous y sommes.
Ce film, j'imagine que c'est aussi la poésie et l'absurdité qui vous plaisent dedans, Pef.
Moi, je rapprocherais ça avec la musique qu'on vient d'entendre de Bertrand Belin, parce que les mots sont là à l'affût. Les mots sont là à l'affût. Et il n'y a rien de plus beau que les mots. Et les mots, très vite, j'ai senti que c'était une armée. C'est une armée qui est très ancienne. Elle est vieille comme l'humanité. Les mots sont des soldats. On les envoie soit en embuscade, soit en guérilla, soit dans les invasions, en masse. Ils sont rangés par ordre alphabétique dans le dictionnaire. A, B, C, D, A, K. Premier régiment, A, K. Deuxième régiment, L, M. Voilà, ça c'est les mots. Et très vite, je me suis, comment dirais-je, trouvé face à ces mots avec les souvenirs de la guerre de 39-45, notamment ces femmes... tendu sous la libération, j'étais tout petit, et quand j'ai vu ces coups qu'on leur donnait, ces crachats, c'est la tonsure, les croix gammées sur le crâne, et que j'ai demandé pourquoi elles étaient là, on m'a dit, comme vu mon âge, j'avais 6 ans, dans le midi, elles ont eu des affaires avec les Allemands. Et je savais pas ce que c'était les affaires. Et tous ces mots-là qui sont arrivés avec le chagrin de ma mère lorsque sa sœur a été tuée par une bombe américaine à l'hôpital de Nîmes, je me suis retrouvé, moi, avec deux choses. Ma passion des mots et les contradictions énormes de la vie. Et c'est à partir de ce moment-là, très tôt, que j'ai demandé l'asile politique à l'humour. Et ça a marché à l'école, ça a marché comme j'avais pas le tableau d'honneur au lycée, mais que j'interprétais le curé de Cucugnat ou alors un monologue de Molière sur le malade imaginaire, j'avais droit au goûter. Donc j'ai essayé de gagner ma vie avec la puissance des mots. Et là, ce que j'ai entendu avec ce type et ses pigeons, plus drôle de drame... les mots, ils sont là. Et c'est de la pâte à mots de lait. De lait, parce que c'est la langue maternelle. Voilà.
Et toujours, avec ce que vous disiez dans une interview, Pef, vous avez une valise de rigolade et une valise de tristesse que vous portez en même temps.
Ah oui. Ça, c'est une question difficile. Bon, c'est ma mélancolie qui est là. C'est, voyez, je vais vous dire quelque chose... c'est pas long du tout, vous allez voir. Le temps que je chausse mes besicles.
Allez-y, Michel Simon.
Voilà. Alors, là, je vais pas dénaturer mon poème avec la voix d'un clown. Ah, attention, on est dans la poésie, là, hein, n'est-ce pas ? Bon. Quand je tends les doigts, paume en dessous, elle fait des vagues, ma peau. Me faut fermer le poing pour l'attendre, m'attendre. C'est bien joli, ces petits plis, mais au final, c'est pas très beau, de la fripe au marché de l'âge, soufflée sur l'enveloppe en tempête d'année.
C'est un extrait de Toujours un mot dans ma poche de vous.
Oui, 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 oui. Et c'est là que parfois la mélancolie me rattrape à fleur de peau. Parce que j'ai beau travailler pour les enfants, l'horloge avance, quoi.
Mais non, mais non. Mais nous non. L'arrêtons.
Ouais.
Bon voyage, messieurs du vélo. Bon voyage, gagnez le gros lot. Si la route est carottée et fatigante,
dites-vous qu'après la montée, il y aura la descente.
Bon voyage, messieurs du vélo. Bon courage, baissez votre dos. On dirait là au petit oiseau couchant.
Salut Toto,
à bientôt.
Notre pas trop chaud.
Les vieilles dames, les marmots.
Et à tous les échos. Bravo, bravo, messieurs du vélo.
Bon voyage, messieurs du vélo, chanté par Mireille pour illustrer l'activité qui vous grise, pef, c'est faire du vélo. À nouveau, vous avez plusieurs anecdotes remarquables à ce sujet, puisque ça commence comme ça. Ça commence par quelque chose qui semble absurde, mais quand vous l'expliquez avec votre poésie, tout prend son sens. Le vélo a toujours été pour moi synonyme d'avion.
Oui, d'ailleurs, les premiers avions avaient des roues de bicyclette. Donc, c'était une transmission. Et quand il y avait deux moteurs, parce que là je suis à l'aise dans le sujet, puisque je prépare le petit éloge de l'aéroplane pour Gallimard, quand il y avait deux hélices aux premiers avions, je parle des aéroplanes, hein, pas des avions. En 1914, le mot aéroplane a disparu et Saint-Exupéry a dit « c'est l'époque où les aviateurs sont devenus des assassins hein ». On va fermer la parenthèse là, et gros silence, mesdames et messieurs.
Gros silence.
Une seconde de silence, en mémoire des aéroplanes. Et quand ces aéroplanes avaient des transmissions, c'était des chaînes de vélos. Les frères Wright, qui ont été les auteurs du premier envol, avaient un magasin de vélos. Tout est parti du vélo.
Et vous alliez au Bourget en vélo pour voir les avions à hélice.
Ouais, ouais. Quand j'avais vu 3-4 avions décoller pour Londres, où c'était le seul aéroport de Paris hein, sur le nord de l'Europe. J'étais très content. J'étais très content.
Vous jouiez aussi au violon à vélo, Pef.
Ah oui, 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 oui. Il y avait des petites partitions qu'on accrochait avec des épingles à linge sur les câbles de frein.
Et c'est dangereux, en mouvement.
Oui, mais j'avais deux copains, j'avais des ailiers, hein, un à gauche, un à droite, et ils me ménageaient la route. Et je jouais « Il n'y a pas d'amour heureux » ou alors « Écoutez la goualande du pauvre Jean » sur mon vélo.
Vous êtes allé voir aussi votre grand-mère en Bourgogne, de la région parisienne, en vélo. Alors c'est un vélo que vous aviez gagné
Pour le brevet.
Pour le brevet.
Voilà. Et ça a duré 2 jours et demi. C'est inimaginable maintenant, parce que j'étais pendant 2 jours et demi de l'autre côté de la Lune, pas de téléphone. Quand j'arrivais le soir, les postes étaient fermés. Mes parents m'ont laissé m'échapper comme ça, sur la Nationale 6, où il y avait beaucoup moins de circulation. Hein, mais j'ai mis 2 jours et demi, et Gallimard va prochainement l'éditer, parce que j'ai refait le même voyage 60 ans plus tard, avec ma moto, en prenant le même itinéraire, pour voir comment le monde avait changé. Il n'y a pas que moi qui change.
Quand on vous écoute parler, Pef, on a l'impression que ça fonctionne par arborescence dans votre tête et qu'un mot vous dirige vers un autre mot, vers une autre idée, et qu'en fait, finalement, tout ça, ça forme un cosmos assez cohérent. Et dans ce cosmos assez cohérent, il y a toujours le vélo, il y a toujours le langage, et il y a aussi votre père. Et le premier souvenir qu'on trouve en lisant Le Soleil sur la langue aux éditions Zoé, c'est un souvenir de la bicyclette de votre père, surnommée Pégase.
Oui, Pégase, c'était un vélo qui était vert d'eau. Il avait un cadre confortable parce que mon père avait pris un vélo de grande taille. Mon père mesurait 1m98 et j'étais assis sur le cadre. Et nous allions voir la Grône, la rivière bourguignonne. J'étais assis et j'avais le long du cadre les cannes à pêche qui, à l'époque, s'étaient fait avec des bambous et elles étaient terminées par un tube de cuivre. Il n'en fallait pas plus pour que je sois le mitrailleur avant du bombardier papa et que dans les descentes, eh ben je disais attention, Messerschmitt devant, voilà. Et j'étais un enfant de tout de suite après la guerre, quoi. Mais ça, c'est un souvenir vraiment d'enfance, quoi. Merci de l'avoir ramené à la surface.
Avec
de la grogne. De la grogne.
Et on va parler de la grogne tout à l'heure, mais le remède suivant est introduit en musique par Modeste Petrovitch Moussorgski. Extrait de l'opéra La Rovenchina de Moussorgski, le morceau Levé de soleil sur la Moscova, interprété par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Les levées de soleil vous enchantent, Pef, car leurs couchers, dites-vous, sont à mourir de tristesse. Vous en avez fait un livre en 2003, Le soleil sur la langue, aux éditions Zoé. Appliquant cette citation, les plus noirs crépuscules sont toujours vaincus par les aurores. Et dans ce livre, qui est un peu comme un journal et qui est un peu votre météo intérieure autant que celle de l'extérieur, vous avez donné rendez-vous au soleil, à l'aube, 365 jours d'affilée. Et ce qui frappe dans ce livre, c'est qu'en fait, vous avez une histoire d'amour passionnée avec le soleil, avec toute la palette d'émotions qu'on a dans les histoires d'amour passionnées. C'est-à-dire que parfois vous vous désirez, parfois vous vous adorez, parfois vous le traitez de sale con. Mmh. Et puis vous vous quittez à la fin avec beaucoup de tristesse.
Ouais, ben oui, le 31 août, je l'ai quitté.
Vous en êtes remis ?
Oui, mais il me reste les... Ça ne veut pas dire que je relis le livre souvent, mais me restent les photographies mentales d'attente du soleil. Et ça, je suis intarissable là-dessus. Et je lui devais bien ça, au soleil. Parce que c'est au souvenir de la Grosne aussi, quand on voyait se lever le soleil au-dessus de l'eau, qui était en train d'aspirer les langues de brume, comme ça. Et je marchais dans les pas de mon père, qui avait des énormes sandales. J'ai dit sa taille tout à l'heure. Et je faisais attention de ne pas mettre mes pieds à sandales limite d'après-guerre dans la rosée. Voilà, et on voyait, nous étions trois, comme je dis, le soleil, mon papa et moi.
1m98, le papa, et vous l'appelez d'ailleurs dans ce livre, Pef, mon papa, mon terrible soleil. Il y a le deuil du père dans ce livre, qui est très présent. Et puis, il y a aussi une certaine mélancolie. Par exemple, à un moment, vous imaginez que vous êtes l'amant du soleil, soleil qui s'écrirait 2i, 2le à la fin, et vous faites référence à un vieux fou aux cheveux argentifs, amant inconsolable à la pensée que chacune de tes avancées sur son trajet céleste le tue à petit feu.
Mmh. C'est tout à fait ça.
Vous avez aussi...
Je suis un peu basculé par l'émotion.
Ça va ?
Ça va.
D'accord. Je vous parle d'une chose poétique,
allez,
alors
allez, lancez votre chronique, je ne sais pas, dites la météo.
Michel Simon, veuillez sortir de ce studio, nous sommes avec Pef. Alors je passe à la poésie fantaisiste de ce livre aussi. Vous voyez des absètes caries déguisées en chauves-souris et des choux-fleurs noirs dedans.
Oui, oui, il y a des cartes marines, il y a tout dans le ciel.
Il y a tout.
Il y a tout.
Vous n'êtes jamais le même chaque matin. Le soleil est différent,
non,
vous
mais
aussi.
Tout le monde est comme ça. Mais ça a été très difficile à l'éditer, hein. Parce que la plupart des éditeurs me disaient, il y a des moments formidables, mon cher ami, n'est-ce pas? Il y a des moments formidables. C'est très beau, c'est très poétique, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu répétitif?
Mais non, justement.
Et c'était ça le pari, c'était la répétition.
Il n'y en a pas.
Et ils me disaient, on pourrait prendre les meilleurs, comme les cartes postales de coucher de soleil, quoi.
Ouais.
Non, non, ils n'étaient pas. Et c'est Zoé en Suisse à qui je dois de l'avoir pris.
Dans un instant, nous évoquerons une chute, il est toujours question de chute dans l'existence, et Roland Dubillard, juste après un titre de la playlist France Inter, How to Disappear, de Lana Del Rey.
John met me down on the boulevard. Cry on his shoulder, cause life is hard. The waves came in over my head. What you been up to, my babe? Haven't seen you around here lately. All of the guys tell me lies, but you don't. You just crack another beer and pretend that you're still here. This is how to disappear. This is how to disappear. Joe met me down at the training yard. Cuts on his face 'cause he fought too hard. And now he's in over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold deep, to forget the things they fear. This is how to disappear. This is how to disappear.
Sur France Inter, toujours en compagnie de PEF. Votre onguent littéraire est paru en 66. C'est le recueil de poésie « Je dirais que je suis tombée » de Roland Dubillard. On le trouve en poche chez Gallimard. On trouve « Je dirais que je suis tombée » suivi de la boîte à outils. C'est là que se trouve le texte que vous avez choisi de lire. PEF, c'est le réflexe de Pavlov. Nous nous apprêtons à assister à un acte de disparition singulier. On vous écoute.
Alors, c'est le réflexe de Pavlov, de Roland Dubillard. Dans son album « Je dirais que je suis tombé ». Voilà, la balle de Pavlov s'écrase sur le mur et, semble-t-il, s'y défigure. Son élasticité la renvoie à son point de départ où la raquette la reçoit, la frappe et c'est encore le mur où elle s'écrase à nouveau. Si l'on prolonge l'expérience suffisamment longtemps, on pourra supprimer le mur. La balle, par réflexe, s'écrasera sur la surface absente et d'elle-même reviendra à son point de départ, la raquette. On pourra même, au bout de quelque temps, supprimer la raquette. La balle, toute seule, conditionnée comme un rat dans un labyrinthe, continuera son va-et-vient. Entre le mur absent et la raquette absente, avec entêtement, quand bien même l'expérimentateur serait rentré chez lui. Elle persistera dans son comportement, même la nuit tombée. Éternellement, non, mais jusqu'à l'usure complète de son caoutchouc. Elle disparaîtra enfin, et seul subsistera ce va-et-vient invisible, mais encore sonore.
Merci beaucoup, PEF, pour cette lecture musicale. On a envie de vous louer pour les nuits d'angoisse, pour que vous nous lisiez des histoires, jusqu'à la fin du monde. On découvre Dubillard dans ce recueil que vous avez choisi, PEF, grave. C'est-à-dire que quand on a lu les Diablogues, par exemple, on a l'habitude de son absurdité, de la jubilation qu'il a à jouer sur la langue, comme vous. Mais dans ce recueil de poèmes, il y a une gravité.
Oui, parce que, écoutez, il suffit simplement qu'il dise « J'entends le cri étouffé du nœud de la ficelle ». Vous vous rendez compte la puissance que peut avoir que ça peut générer chez vous. Et vous regardez plus les nœuds de la même façon. Et c'est ça la poésie. C'est un grand remède à la mélancolie, je pense. La poésie, justement. Parce qu'avec même les mots nœuds, ficelles et tout écrit, on arrive dans un autre monde. Et on s'envole. C'est peut-être pour ça que les vers des poésies ne vont pas jusqu'au bout de la ligne. Ils décollent juste aux trois quarts de la page parce que la piste n'est pas assez longue. C'est pas comme dans les romans. Donc c'est des terrains d'envol, les poésies.
On va s'envoler vers quelques animaux, si vous nous le permettez, Paf.
Oui.
Je pense qu'il y a quelques vaches avec lesquelles vous avez quelques acquaintances. Là, c'est vous qui faites une poule. Nous sommes en Bourgogne, à 900 mètres d'altitude, dans votre centre du monde, la colline de Saint-Roch, à Saint-Jean-Goule National, près de Cluny. Un pâtis communal sans haie où vous gardiez avec des copains vaches, moutons et chèvres. Il dominait le village et au loin, vous voyez briller la Grône, affluent de la Saône.
Oui.
Alors, pâtis. Un pâtis, qu'est-ce qu'un pâtis ? C'est un médiocre pâturage.
Mais c'est-à-dire qu'un pâtis, c'est un endroit sans haie, sans fil de fer barbelé, sans bouchure, comme
on
dit.
La liberté.
Les bouchures, voilà. La liberté se résumait au rayon d'action de nos cannes, de notre chien, pour les vaches, les moutons et les chèvres. Voilà. Mais c'est le monde absolu, c'est un mont chauve. Il n'y a que de l'herbe autour et ma mélancolie, elle me renvoie comme une balle de tennis à ces moments où je bondissais dans un jeu qui n'était pas vidéo, mais un jeu en 3D. Hein, et pour arriver à la fin des vacances avec sur mes genoux les signatures pourpres de l'été dans les seaux, dans les ronces et tout ça. Pas d'heure. Juste l'ombre de la Madone, dont on savait le soir qu'en s'allongeant jusqu'au petit bois, il était 7 heures. Et on voyait briller le fil d'argent de la Grône dans la vallée de Cluny.
La Madone, c'est la chapelle dédiée à Saint-Roch, c'est ça?
Oui, Saint-Roch, voilà, c'est un ex-voto, et ça nous permettait de nous abriter dessous quand il y avait de l'orage ou de la pluie.
Vous parlez vraiment en poème, Pef, vous dites « Et puis passaient dans le ciel les premiers avions de la paix retrouvés, ronronnant sur le trajet Lyon-Paris. Les loups étaient partis, mais subsistaient sur mes genoux les signatures pourpres des ronces, des beaux étés de course folle dans les hautes herbes. »
Ouais, c'est ça, c'est ce souvenir, ce qui nous permettait de lever la tête sans aller aux abris. Ça, pour moi, ça a été de voir cet avion qui se foutait complètement de nous au lieu de chercher à nous anéantir.
Il n'y a pas de nostalgie quand vous repensez à ces moments d'enfance ?
Non, parce que des moments d'enfance... j'habite chez mon enfance et mon enfance habite chez moi. Je suis vraiment un chaud partisan de la conservation de l'enfant dans la personne humaine, à savoir que je ne considère pas l'enfance comme un échafaudage. Que je retirerais en ayant, d'abord j'ai pas de diplôme, mais en ayant plein de diplômes si je retirais l'échafaudage. Mais il est là à tout moment parce que s'il était pas là, je ne serais pas complet. Et c'est pour ça que je milite beaucoup pour les droits de l'enfance. Et j'ai signé plusieurs bouquins où l'enfant est quand même au centre du monde, hein, quand même. Hein.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme 4, puffant comme 10, qu'en vidant des litres.
Pef, on entend une chanson Rempart contre la tristesse, le poème écrit par Victor Hugo en 1847, Les Tuileries, mis en musique plus d'un siècle plus tard, en 1965, par Colette Magny. Oui. Il est question de jeunes sans le sou, mais libres.
Libres. Et ils ont l'amour, la jeunesse, l'amour dans les yeux, ils ont l'ivresse, et ce sont des diables et ce sont des dieux. C'est comme ça que ça se termine. C'est tout l'espoir de l'humanité, même si cogné aux vitres pour effrayer le bourgeois difforme. Ce sont des êtres respectables et ils vont manger chez Lise ou Jeanne de temps en temps à l'auberge. C'est une ode au moteur de l'humanité.
Quel est-il ce moteur de l'humanité ?
C'est la confiance dans le futur et l'engagement. On peut être réfractaire à cet engagement, hein, on peut, mais je veux dire que quand on voit la liste de tout ce qui nous a précédé, de tout ce qui nous attend, on peut pas dire je vis pour moi-même tout seul et voilà sans devoir rien à personne. Il faut être l'autre, c'est déjà quelqu'un. C'est ça.
Vous allez d'ailleurs sortir bientôt un livre CD opéra intitulé Terra Migra, qui est sur les migrants. Beaucoup de vos œuvres sont engagées, PEF.
Oui, oui. J'ai jamais supporté qu'on ait tué mon grand-père dans les premiers jours de 14. C'est pour ça que j'ai fait Zap la guerre sur des gens qui sortent d'un monument aux morts dans l'état dans lequel ils ont été tués. C'est maintenant, il y a des Twingo, des Clio, il y a des trucs comme ça autour du monument aux morts. Et après, ça a été suivi par d'autres livres. Il y a eu sur les mines antipersonnelles, hein, la si jolie poupée, qui a été traduite dans toutes les langues de l'ancienne Yougoslavie. Et puis récemment, il y a 2 ans et demi, je me suis attaqué au problème des migrants. Et à ce propos, donc c'est un poème symphonique très bien mis en musique, qui va sortir très bientôt. Mais c'était là aussi, je ne pouvais pas laisser passer ça, parce qu'un jour, un migrant survivant d'un naufrage m'a dit « Pef, c'est bien ce que vous faites, mais on ne saura jamais tout sur ce qu'on a vécu. » Et là, pendant quelques secondes, je voudrais retracer la phrase qu'Emmanuel Macron a dit quand il a parlé de l'Holocauste. C'est tout savoir, ne rien oublier. Moi, je la compléterai un peu. Il faut ne jamais oublier qu'on ne peut pas tout savoir. Ce qui se cache derrière chaque cas, un monde. Et ça, c'est important.
Et ce qui est beaucoup plus humble, votre second antidote musical, PEF, est un chant d'esclaves. C'est suprêmement mélancolique. Ça a été composé avant l'abolition de l'esclavage en 1865 et interprété en 1957 par Louis Armstrong puis de nombreux autres. « Sometimes I feel like a motherless child ». Parfois, je me sens comme un enfant sans mère. Un petit mot dessus avant qu'on l'écoute.
Ben, moi, je l'ai connu en 57 quand il est sorti, ce disque. C'était un disque 33 tours avec « When the Saints ». Nobody knows the trouble I have had, et puis d'autres, et ça m'a saisi parce que c'est l'époque où il y a eu le rock qui est arrivé. Mais en même temps, j'ai pas voulu lâcher tout parce que j'étais très attaché à la damnation de Faust, de Berlioz, au final de la 9e symphonie. J'étais attaché à tous les grands, à la petite musique de nuit et tout, mais j'ai pas voulu tout lâché pour le rock, et j'ai su qu'il y avait quelque chose derrière, d'autres choses. Il y avait un autre trésor, et c'était Satchmo. Oh yeah!
Sometimes I feel like a motherless child. 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 A long ways from home. A long ways from home. True believer, a long ways from home, a long ways from home. Yeah. Sometimes I feel like a motherless child.
Why?
Why? Because nothing ever happens.
Nothing?
Well, nothing good.
So what's good?
Well, you know, I have a ball, man.
You sick?
No.
Hungry?
No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice.
See what I mean?
I dig. I am a long ways from home. But things could be worse. Sure could.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Louis Armstrong et Bef. On passe à une œuvre d'art picturale. Le tableau qui vous enchante, c'est une toile découverte au musée du Jeu de Paume dans les années 50 qu'on a longtemps attribuée à Rembrandt. Mais des experts se sont rendus compte que ce n'était pas Rembrandt.
Je m'en fous totalement.
Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous.
Je m'en fous totalement.
Mais oui.
On peut parler d'autre chose ?
Oui, on va parler de ce tableau et on va dire que c'est de Rembrandt.
Oui, oui, d'accord.
C'est l'homme au casque d'or, vraisemblablement peint vers 1650. Et alors, vous le mettez en scène dans votre petit éloge de la lecture paru chez Gallimard en 2015, Pef. Vous dites que vous avez l'impression que ce portrait mettait le nez à la fenêtre dorée du cadre histoire de vous voir passer. Et vous entreprenez un dialogue avec ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce tableau ? Parce qu'il est assez singulier, il est très très sombre.
Il est très très sombre, oui, oui. C'est un souvenir d'enfance, c'est encore racinaire hein, chez moi. Je suis désolé, hein, si on n'en finit pas.
Non, mais si ça vous fait du bien.
Bon,
ça nous fait du bien.
J'étais venu au musée du Jeu de Paume, ou à l'Orangerie, je ne sais pas lequel des deux bâtiments, mais j'étais venu à bicyclette de Livry-Gargan.
Évidemment, en jouant du violon.
Non, pas là, parce que quand même, Paris reste Paris.
Oui. Bon.
Et j'avais appuyé mon vélo sur le flanc du bâtiment, sans antivol. C'était une époque formidable.
Ah oui. Oui, ça a bien changé.
Ça a bien changé. Et j'avais, quoi, 12 ans, 13 ans. Et je monte l'escalier qui donne accès à la salle d'exposition. Et c'était le premier tableau. En vrai, que je voyais. J'avais chez moi une reproduction d'un Utrio, c'est mes parents, c'était chez Braun, la marque de faux tableaux, quoi. Mais c'était de la photographie, c'est tout. Ça ne me parlait pas, quoi. Et puis, je trouvais pas Montmartre très, très, très drôle, hein. Et donc, je progresse dans l'escalier, je lève les yeux, et un type me regarde par une fenêtre dorée. C'était lui. Parce que c'était moi. Et parce que c'était lui. Et il me regarde en plongée. Et moi, j'étais en contre-plongée. Et je vois ce type farouche avec son regard.
Et son casque.
Et son casque, oui, oui. Et je le regarde. Et pour moi, ça a été le choc pictural, mon entrée. C'est bienvenue au club. Bienvenue au club. Je dessinais pas. Bon, c'est venu après. Puis je suis très mauvais en couleur. C'est ma femme qui s'occupe des.
Et c'est Chaval et Bosque qui vous ont donné
Chaval
l'envie
et Bosque,
de dessiner.
Le trait. Oui. Oui, je suis un cheval de trait. Hein.
Oui, un cheval de trait, c'est bien vous, Pef.
Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est ce regard et cette empathie dans laquelle je suis rentré avec ce type et je lui ai offert ces quelques pages qu'il lira peut-être dans un autre monde, je sais pas.
Il vous explique à quoi sert la sexualité, notamment oui, lors de ce dialogue.
Voilà, voilà.
À quoi sert-elle ?
J'ai tout oublié.
Alors moi, je vais vous le dire. Tout s'explique par la nécessité vitale de donner la vie à des enfants comme toi, d'engendrer dans le plaisir pour qu'ils trouvent un jour à leur tour la même joie à donner la vie.
Mais c'est pas mal
c'est
du tout.
C'est pas mal du tout, dis
c'est
donc.
C'est pas mal du tout, je vais essayer de m'en rappeler. Alors.
Mais je vous recommande ce livre, vous ouais, pouvez non, le lire peut-être.
Je travaille trop.
Oui, c'est vrai, pour vous lire.
Je travaille trop.
Le tableau est exposé aujourd'hui à la Gemmel de Galerie à Berlin.
Et je le ramène chez lui, dans le livre.
Évidemment, car vous êtes un gentleman.
Oui, oui, on va en péniche par les canaux et je le ramène jusque chez lui. Alors que les gendarmes sont chez moi en disant, il paraît que vous avez un tableau de Rembrandt chez vous. C'est dans le petit éloge de la lecture.
Mignonne, allons voir si la rose de Ronsard, mise en musique par Guillaume Costelet et interprétée par l'ensemble vocal Philippe Caillard. On a choisi ce morceau car le poème de Ronsard fut composé en 1545, soit un an après la mort de l'auteur de votre citation consolatoire, Pef. Il s'agit de Clément Marot, né en 1496, le poète attitré de François Ier, qui pour l'anecdote est à l'origine de la règle grammaticale affirmant que le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire avoir quand l'objet est placé devant le verbe. D'ailleurs, Voltaire se moquait de lui en disant « Clément Marot a ramené deux choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé. Je pense que c'est le deuxième qui a fait le plus de ravages. Vous avez choisi, Pef, une épigramme, un petit poème satirique de Clément Marot. Vous nous liriez cet épigramme ?
Ah oui, ah oui. Plus ne suis ce que j'ai été et ne le saurai jamais être. Mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre.
Alors, malgré le fait que ce soit le constat d'une jeunesse passée, vous, Pef, ce texte vous met en joie, puisque le temps qui passe se jette par la fenêtre, et vous ajoutez « Ainsi s'en débarrasse-t-on en se frottant les mains ».
Oui, oui, mais je suis au monde, hein, je suis au monde. Et je suis à tous les mondes. C'est ça qui est lourd, des fois, à porter. Mais être au monde, quel bonheur. Mais quel bonheur. Je regardais l'autre jour, là, il y avait Vénus, il y a la Lune qui était à côté, et Vénus était juste dans la branche d'un pin. Et la branche baissait et remontait, on aurait cru que la branche de pin, avec la distance qui s'établissait, on aurait cru que Vénus rebondissait et se reprenait dans la branche de pin.
Comme la balle de Pavlov de
Dubinard. Oui, comme la balle de Pavlov. J'ai essayé de supprimer le pain, mais ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est les joies simples de ça. Hein. Et j'en ai une collection et je saute d'un pied sur l'autre, de joie en joie, comme pour éviter les flaques grises, on saute d'un caillou à l'autre, quoi.
Merci beaucoup, Pev, d'être venu dans cette émission partager vos remèdes.
Eh ben, c'était un vrai bonheur.
Et pour moi aussi.
Voilà.
Fin février, aux éditions Gallimard Jeunesse, sortira votre livre CD opéra Terra Migra, mis en musique par Marc-Olivier Dupin avec la maîtrise de Radio France. Si l'on veut passer du temps avec vous en imagination, il suffit de se rendre dans n'importe quelle librairie ou bibliothèque. Votre œuvre fait partie des classiques. Beaucoup de vos ouvrages sont publiés chez Gallimard, ainsi qu'aux très chouettes éditions Rue du Monde, en divers formats. Et il y en a un très mignon qui s'appelle Small, qui est un grand petit livre. Chers auditeurs, vous pouvez nous suivre et réécouter cette émission sur les réseaux sociaux, la programmation musicale. Les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a l'éclat d'un pamplemousse en aluminium. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à 10h10.